Donc bonjour à toutes et tous. Donc merci d'être présents donc à cette journée qui constitue donc le cinquième comité technique du programme de recherche plus patrimonial ou plus patrimonial peut-être. Donc quelques mots sur ce projet qui est donc dirigé par Arnaud de la Jarre avec Vincent Deschamps, qui réunit donc juristes et géographes de plusieurs institutions de recherche à Angers, Lyon, Tours, avec des chercheurs aussi localisés à Paris et Reims. Donc ce projet a pour objectif l'étude de la prise en compte des patrimoines dans les plans locaux d'urbanisme, et par le croisement des regards donc géographiques et juridiques, nous voulons comprendre les modalités et enjeux de cette prise en compte au-delà donc évidemment des monuments historiques, des sites patrimoniaux remarquables. Dans le cadre de ce projet, nous étudions donc les PLU de plusieurs villes françaises, et notamment on avait mis en place une grille d'analyse qui se trouve d'ailleurs en téléchargement sur le site internet du projet, qui examine les mentions du patrimoine dans rapport de présentation, PADD, et la façon dont la partie réglementaire cartographique permet une identification et l'établissement de prescriptions sur certains édifices ou sites patrimoniaux. Donc on se pose dans ce cadre plusieurs questions. D'abord, et c'était l'enjeu aussi de la balade de ce matin, la façon dont ces éléments patrimoniaux sont identifiés, dans quelle mesure la réalisation des PLU ou PLUI sont associés à des démarches d'inventaire ou remobilisent des inventaires déjà réalisés en amont, par quels acteurs, selon quelles démarches sont réalisés ces inventaires, et quelles catégories patrimoniales ou types de patrimoine sont pris en compte, selon quels critères et quelles éventuelles hiérarchisations entre eux, ce qui est également un des thèmes de discussion de ce matin. Ensuite, la façon dont ces éléments identifiés sont pris en compte et protégés, c'est notre deuxième questionnement, au-delà du rapport de présentation, font-ils l'objet de formes de protection via des prescriptions spécifiques? Est-ce sur l'ensemble de la commune, dans des zones spécifiques, et dans quelle articulation? Et là aussi, ça a été discuté ce matin avec des projets urbains de redéveloppement, de requalification, de renouvellement urbain, etc. Et puis enfin, troisième point, nous posons également la question de l'effectivité de cette prise en compte, du point de vue de son efficacité, du point de vue des effets urbains, pour quels objectifs, quelle application, quelle mise en œuvre, comment s'effectue le lien avec les pétitionnaires. Donc voilà pour le cadre un peu général du projet. Alors toutefois, ce projet a été monté en 2014, financé à partir de 2015 et a été contemporain aussi de plusieurs évolutions qu'on a dû évidemment intégrer dans nos recherches. Bon, évidemment, la loi LCAP et puis le développement croissant de PLUI, leur développement qui repose à nouveau la question des inventaires. Autrement dit, le PLUI s'inscrit-il en continuité à une nouvelle échelle? Constitue-t-il un changement d'échelle selon les mêmes logiques ou inaugure-t-il, du point de vue de la dimension patrimoniale des PLU, une transformation des modes de faire? Donc la journée d'aujourd'hui répond à plusieurs enjeux pour notre projet. D'abord, elle prolonge la pratique des balades urbaines filmées menées avec des professionnels du territoire, engagés dans des démarches d'identification, d'inventaire, en lien avec la réalisation des PLU. Donc on avait mené des balades précédemment à Lyon, Tours, Angers. Celles de Lyon et Tours ont fait l'objet de vidéos mises en ligne déjà sur le site de Plupat. Celle d'Angers le sera prochainement, celle-ci ce matin également. Ce qui nous permet donc de repérer une pluralité de situations, de modes de mise en œuvre dans l'identification, la protection d'éléments patrimoniaux. Cette journée s'inscrit aussi en lien avec un type de territoire, de morphologie urbaine, que nous n'avions pas étudié spécifiquement jusque-là, avec une mise en avant accrue potentiellement de patrimoine XXe siècle, industriel, etc. Et puis, même si nous sommes sur ce territoire en amont de la réalisation du PLU intercommunal, se pose la question des démarches d'inventaire, d'intégration des patrimoines dans le cadre de cette démarche. Par exemple, dans la délibération pour pleine commune d'octobre 2017, parmi les objectifs le justifiant, figurait la préservation des paysages naturels et urbains en lien avec le territoire de la culture et de la création, donc dans le cadre du Grand Paris, et la valorisation du patrimoine architectural. Et donc, on voyait bien à travers les cas examinés comment le passage au PLUI pose la question de disparité entre communes dans l'intégration d'inventaire, l'existence d'inventaire, leur prise en compte accrue ou pas, etc. Voilà. Et puis en outre, on est aussi dans le contexte de territoire avec des projets urbains majeurs, dans le cadre notamment de l'événementiel sportif. Donc, on espère que les échanges permettront aujourd'hui, cet après-midi, d'aborder ces enjeux spécifiques. Voilà, donc pour finir, nous remercions donc chaleureusement les membres du service du patrimoine culturel du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, donc d'abord pour la visite ce matin, pour les échanges en amont, afin de préparer la journée, la ville de Saint-Denis également, pour son accueil aujourd'hui, de pleine commune, et puis les personnes qui sont venues de la région Centre-Val-de-Loire, pour le service patrimoine et inventaire, et puis d'Angers-Loire Métropole pour la direction aménagement et développement. Donc, voilà, merci beaucoup et donc bons échanges.
D'abord, bienvenue à toutes et à tous pour ce comité technique qui est organisé par le programme de recherche sur le PLU patrimonial. Je n'aurai pas ici la provocation de relever que pour beaucoup quand même d'acteurs des plans locaux d'urbanisme et avant des postes, la question patrimoniale était parfois plus une incongruité à la limite de l'impolitesse que d'un élément d'enrichissement du PLU ou du POS. Mais en tout cas, c'est avec enthousiasme que nous vous accueillons pour cette journée de travail scientifique dans la ville de Saint-Denis, qui est une commune elle-même hautement patrimoniale, et où nous organisons désormais la reconstruction de la deuxième flèche de la basilique. Il doit y avoir à l'accueil quelques documents là-dessus avant l'Assemblée générale de ce soir. C'est d'autant plus intéressant d'accueillir cette journée ici à Saint-Denis parce que la ville a fait le choix de se doter d'un plan local d'urbanisme avec un volet patrimonial qui est fort important. On compte près de 300 bâtiments qui sont considérés comme des bâtiments du patrimoine à conserver, dont un nombre sont classés ou sont à l'inventaire. Et ils ont été intégrés à ce document cadre. Donc c'est à la fois tout à fait notable, parce que jamais, ou rarement en tout cas, la ville n'avait eu de documents d'urbanisme aussi précis et volontariste en matière et de requalification et de revalorisation du patrimoine. Et ici, on est fort sensible à son patrimoine. On est dans une ville qui bouge beaucoup, mais qui doit aussi conserver les traces de son histoire. Sinon, il n'y a pas de point d'accroche pour que, venant de 140 origines nationales différentes, on puisse ici être chez soi. Pour une part, d'ailleurs, l'ambitieux plan de résorption de l'habitat insalubre et dégradé concerne de tels bâtiments. Et l'histoire se lit parfois avec un grand H, Saint-Denis étant une ville emblématique de l'histoire de France. Mais l'histoire, c'est aussi avec un petit H qui exprime une ville traversée par plein d'autres histoires, celle de l'immigration. On a, il n'y a pas si longtemps, salué avec Ciao Italia l'immigration italienne. Je vous incite à aller voir cette expo quand elle, tant qu'elle perdure au musée du même nom. Mais aussi de l'histoire sociale ouvrière. On fêtera, on commémorera cette année les 50 ans de mai 68, pas pour faire commémoration, mais pour regarder ce que ça nous dit aujourd'hui des transformations engagées dans ce monde. Donc d'autres histoires qui s'imbriquent, qui se mêlent et qui confèrent à la ville une identité propre qu'on pourrait même considérer comme assez singulière. Ces histoires et les richesses patrimoniales qui en découlent et qui racontent au-delà de la ville de Saint-Denis avec les 8 autres villes qui composent pleine commune, racontent un passé commun. Elles ont été reconnues en 2014 par le ministère de la Culture avec l'obtention du label « Ville » d'art et d'histoire, en l'occurrence on est plus un pays ou un territoire d'art et d'histoire. Au-delà de la reconnaissance de cette richesse patrimoniale, se déploie le dynamisme des acteurs locaux qui travaillent à la valorisation, à la médiation, à la préservation de l'ensemble de ce patrimoine. Dans le cadre du label, un des axes de travail prioritaires que nous avons décidé de cultiver est aussi d'intégrer la dimension patrimoniale dans toutes les politiques publiques menées sur le territoire, et notamment en matière d'urbanisme et d'aménagement. Et l'existence d'un service développement local au sein de l'institution à pleine commune, au sein de la direction du développement économique, indique clairement combien il s'agit de partir des ressources, des richesses, des savoir-faire et compétences de ce territoire et de ces populations pour construire un avenir commun. L'objectif est de sensibiliser aux enjeux liés à la préservation du patrimoine, afin que cette logique soit pleinement intégrée et prise en compte dans toute notre action publique. Elle n'est pas seulement une espèce de cerise sur le gâteau ou une décoration, mais elle est un élément constitutif de ce qui peut faire commun au singulier comme au pluriel. Pleine Commune élabore actuellement son premier plan local d'urbanisme intercommunal, avant le transfert éventuellement à la métropole, si elle existe encore à la fin de l'année. Prenons cette journée comme l'opportunité de se nourrir des démarches des unes, des uns et des autres, et de partager les expériences qui ont été menées avec d'autres collectivités, c'est en tout cas ce qui me semble être une ambition intéressante de cette journée. Nous avons grand besoin d'oser et d'imaginer pour inventer la ville. Je souhaite donc que, de ce point de vue, cette journée soit fructueuse et je vous souhaite à toutes et à tous un fort bon travail. Ben, c'est tout.
Alors, cette première présentation, elle est l'occasion d'un retour d'expérience, en fait, sur l'existence même du service du patrimoine culturel, qui s'enracine, en fait, très précisément ici, à Saint-Denis. J'ai parlé rapidement tout à l'heure de la ZAC Basilique, juste avant qu'on déjeune, et j'ai oublié de mentionner, et c'est ce qui suscite cette mention maintenant, que en marge de cette ZAC, la dimension archéologique du site avait bien évidemment été prise en compte, et Olivier Meyer, notamment, entre autres, a fouillé l'ensemble du secteur de la ZAC, et ça a donné une connaissance très approfondie de ce site et complémentaire de ce que l'on savait déjà sur la basilique. Un premier aboutissement de ces fouilles menées dans les années 74-80 a été la création de l'unité d'archéologie municipale de Saint-Denis et son prolongement en 91 à l'échelle départementale cette fois, avec la mission archéologique qui a pris place à Épinay-sur-Seine, donc sur le futur territoire de Pleine Commune. Et j'en viens à la création même du service du patrimoine culturel qui est issu très directement du protocole de décentralisation culturelle engagé en 2001 et réellement mis en œuvre en 2002, qui dans un premier temps s'est appelé Bureau du patrimoine, a pris place au sein du service de la culture avec un dispositif paritaire entre l'État et le département, voulu donc par le secrétaire d'État à la décentralisation culturelle Michel Dufour et le président du conseil départemental de l'époque, Robert Clément, si je ne m'abuse, et donc un cofinancement d'une expérimentation de décentralisation de l'architecture et de l'inventaire, et une réarticulation avec cette mission archéologique précédemment créée en 91. Antoine Furiot et moi-même, et quelques autres, sous l'égide d'Olivier Meyer, qui avait donc mené ses fouilles dès 1974, nous avons été missionnés pour engager ces différents chantiers, avec également des collègues architectes, Michel Desmar, Marc Couronné. La valorisation du patrimoine était également envisagée. Et très rapidement, en fait, on a identifié avec la loi Solidarité et Renouvellement Urbain la possibilité d'intervenir et de sensibiliser les communes via le volet patrimonial du plan local d'urbanisme. Et c'est donc ce retour sur expérience qu'on vous propose maintenant.
Donc, pour reprendre le propos et poursuivre le propos de Benoît Pouvreau, ce matin, lors de nos visites, on a traversé deux territoires, Saint-Ouen et Saint-Denis, territoires sur lesquels le service du patrimoine culturel est intervenu à des moments différents et le niveau d'intervention lui-même était différent de manière notable. On a pu le voir avec l'identification, pour le cas de Saint-Ouen, d'objets patrimoniaux sans qu'aucune recommandation ne soit établie. Et de l'autre côté de notre ligne chronologique, Saint-Denis, territoire sur lequel l'équipe s'est lourdement investie durant près de 3 ans, dans une étroite association avec Pleine Commune et la ville de Saint-Denis, et qui a donné lieu aux fiches beaucoup plus exhaustives qui laissent cette fois-ci apparaître des préconisations elles-mêmes reprises par le territoire. L'objectif de ce PowerPoint, c'est de vous montrer la manière dont on est passé de la première étape, Saint-Ouen, nous sommes intervenus vers 2002 sur Saint-Ouen, à Saint-Denis, territoire sur lequel nous sommes intervenus en 2011, et la manière dont cette évolution s'est progressivement maturée durant près de 8 à 9 ans. Un rappel, mais bon, je pense que dans Saint-Enceinte, il n'est pas nécessaire de le faire, c'est juste remettre en avant l'article, le fameux L151-19 ex-L123-157, qui pointe bien la possibilité, dans le cadre du Code de l'urbanisme, d'identifier, de localiser les éléments du paysage, délimiter les quartiers, les îlots, etc., etc. Le cas échéant, d'y intégrer les prescriptions de nature à assurer leur protection. Et c'est l'articulation de ces deux dynamiques qui nous intéressait, c'est à savoir identifier, localiser, qui relève davantage du volet recherche et inventaire, et la seconde qui est la définition de prescription de nature à assurer leur protection, qui fait appel davantage à des compétences opérationnelles, même si bien sûr l'inventaire elle-même a une expertise qui peut se traduire de manière opérationnelle. Une cartographie pour localiser, d'une part, identifier le territoire de la Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que cet ensemble de 40 communes qui se situe au nord-est de Paris et qui vous identifie par des aplats grisés les diagnostics patrimoniaux un peu aboutis qui ont été réalisés par le service du patrimoine culturel. Échappent deux communes, mais j'y reviendrai, voire trois, Saint-Ouen, Noisy-le-Grand et Neuilly-sur-Marne. Et l'on voit une couronne qui se dessine en périphérie immédiate de Paris, entre Saint-Denis et Bagnolet, et qui correspond à des territoires à forte mutation. Donc nous sommes intervenus sur des territoires qui eux-mêmes étaient en forte mutation, donc qui suscitaient un besoin de connaissances patrimoniales et qui elles-mêmes éveillaient dans certaines des villes un besoin de connaissances afin de traduire cela dans les documents d'urbanisme. Une autre cartographie qui fait un état des lieux en 2016, donc qu'il faut actualiser un an plus tard, mais on a eu un peu la fainéantise de le faire ces derniers temps. Les PLU patrimoniaux en Seine-Saint-Denis, qui pointaient à cette date en orange les villes qui possèdent un volet patrimonial jouant PLU au POS, et en jaune les villes qui possèdent un volet patrimonial en cours d'approbation, sachant que les carrés jaunes sont devenus des carrés orange en grande majorité. Oui. On commence notre... Tu me dis, hein, si tu veux intervenir. Ah, vas-y. Donc on a essayé de retracer, donc on a fait un peu un travail d'introspection pour retracer notre évolution, et nous sommes repartis sur ce que Benoît signalait, la signature du protocole et sa mise en œuvre, où dans le protocole il était déjà un peu affiché que le travail d'inventaire devait s'inscrire dans les problématiques de renouvellement urbain et que donc cette articulation recherche opérationnelle, recherche appliquée, était un peu l'ADN de ce qui est devenu par la suite le service du patrimoine culturel. 2003-2004, on commence par une phase un peu expérimentale des diagnostics sur 4 communes, Saint-Ouen que j'ai cité, Drancy, Neuilly-sur-Marne et Noisy-le-Grand, où le travail se limitait à une recherche documentaire, recherche de terrain, on arpentait le territoire et qui donnait lieu à des mini-synthèses thématiques, à une campagne photographique et à un pointage des éléments d'intérêt patrimonial, avec une liste d'adresses, travail, par la suite, études communiquées à la ville étant libre de s'en saisir ou pas. Donc là, je vous ai pris le cas de Drancy, qui a donné lieu à une petite synthèse disponible sur l'Atlas du patrimoine de la Seine-Saint-Denis, en téléchargement. Seconde phase de notre histoire, les monographies communales un peu plus exhaustives, qui sont réalisées en étroite collaboration avec les villes. Donc 2004 2006. Ça correspond à nos investissements sur les communes de Aubervilliers, Pantin, Bagnolet, Lille-Ila. Donc on revient à notre petite ceinture à proximité immédiate de Paris, où nous avons des travaux donc beaucoup plus conséquents, qui mobilisent beaucoup plus de personnel. Si on travaille sur notre organigramme, on a de nouveaux agents qui ont rejoint le bureau. Donc le bureau s'étoffe de nouvelles compétences en inventaire. Et le travail de monographie communale, on voit les partenariats avec l'association ici du ministère de la Culture représenté par le STAP et la ville qui est clairement présente par la pose de son logo sur le document final. Un travail et des monographies qui se déclinaient également en restitution et en valorisation par l'édition de petites brochures, de petites plaquettes d'une dizaine de pages à peu près, distribuées gratuitement au public. Donc on était réellement dans une idée de vouloir sensibiliser les publics au travail qu'on pouvait conduire sur le territoire. Vous avez bien noté que Aubervilliers et les Lilas, ce ne sont pas de même commune, mais c'était juste pour vous illustrer que le travail sur les Lilas a, dans ce cas-là, donné lieu à une restitution écrite, valorisation écrite. Une cartographie rapide qui vous présente la manière dont la ville d'Aubervilliers s'est appropriée le travail de l'inventaire. Et cette carte intègre le plan local d'urbanisme de la ville. Alors, on le voit très mal, mais en plus, le territoire est un peu déformé, un peu tiré vers le nord. Mais chaque point représente un objet identifié. Mais on n'est pas encore sur la recommandation, sur des problématiques de recommandation, on est sur de la localisation, même si sur le cas d'Aubervilliers, on s'en est aperçu en faisant le PowerPoint qu'il y a eu un essai non transformé d'un volet 2, le fameux volet 2, de prescriptions et de recommandations architecturales et urbaines, réalisé à l'époque par le Bureau du patrimoine architectural et urbain de notre service, non transformé puisque le travail n'a pas été validé par la ville qui était notre partenaire et donc est resté un peu lettre morte. Mais néanmoins, c'est réellement la dynamique qu'il faut retenir. On était dans l'idée qu'il fallait que ces travaux d'inventaire puissent donner lieu à des recommandations. Oups. Troisième période, réellement la période transitoire.
Peut-être que sur Pantin, c'est intéressant d'y revenir parce qu'il y a aussi une monographie communale conséquente, un diagnostic patrimonial comparable et l'idée de faire collection. La référence pour les membres du service, c'était les monographies communales de Bournon, de Fernand Bournon au début du XXe siècle, qui s'est attaché à définir chacune des communes de la Seine. Et donc l'idée c'était effectivement donc de faire collection, c'était une façon aussi d'approcher les communes une par une en ayant l'extrême ambition de les traiter toutes et donc on a fait la même chose pour Pantin et Pantin s'en est j'ai un trou, je ne sais pas s'ils ont souhaité un volet 2 et des préconisations patrimoniales. Ils étaient eux-mêmes très investis et ont doublé notre propre étude d'une étude commanditée à Sciences Po. Et finalement, on fait une proposition qui a été jugée à l'époque trop ambitieuse par la DDE de plus de 400 sites protégés, considérant à l'époque, l'État considérant à l'époque que c'était trop ambitieux et ingérable. Donc voilà, une appropriation contrastée parce que finalement, que ce soit pour Aubervilliers ou pour Pantin, la loi SRU a été quand même relativement neuve, l'appropriation patrimoniale également, et puis cet investissement a été diversement apprécié, ressenti. Pour Aubervilliers, il y avait aussi une autre problématique, c'est l'intégration d'antennes communes qui se faisait au même moment, et notamment les collègues interlocuteurs directs intégraient à ce moment-là Plenco et ça n'allait pas de soi. Le degré d'appropriation et d'engagement était diversement fait et d'une certaine façon aussi, notamment donc à propos de Pantin, le positionnement de l'État était aussi en relatif retrait selon les communes, si on était trop ambitieux, il ne fallait pas l'être. Si on n'était pas assez, il fallait l'être plus. Enfin, voilà, cette situation d'entre-deux qui a été modifiée au fil du temps, mais qui demandait effectivement que cette loi prenne vraiment sa place et surtout que ce volet patrimonial s'intègre, prenne réellement sa place dans les têtes des différents partenaires et interlocuteurs. Donc sur Aulnay, on a effectivement se mettre dans une situation où on arrivait à avoir, pas tout à fait de façon satisfaisante, mais une articulation avec l'ensemble des services communaux, les archives municipales, le service urbanisme et le service, en l'occurrence plutôt une direction, des affaires culturelles, de façon à ce que, effectivement, chacune de ces entités communales se saisisse en propre ces propositions de protection. Et on a fait un essai, par certains aspects insatisfaisant, mais je te repasse peut-être la parole, Antoine.
Tout simplement pour compléter, c'est qu'au niveau de l'URBA à Aulnay, on avait les droits des sols et le service projet urbain, qui étaient des services dissociés, mais on a pu travailler avec les deux. Et l'engagement d'Aulnay a également été marqué par le fait que la ville s'est engagée à salarier une personne qui travaillait spécifiquement sur la dimension patrimoniale, pour travailler notamment sur le pavillonnaire. Donc du coup, on était sur un engagement concret, financier du territoire. Le résultat, c'est donc une cartographie à l'échelle communale avec l'idée de vouloir faire des recommandations et donc un zoom par quartier qui donnait lieu pour chacun d'entre eux à des débuts. Alors on est plutôt sur l'orientation et la recommandation, mais ça reste très très général, très schématique, mais on est bien sur l'idée, et notamment dans ces échanges itératifs avec les services urbains et droits de sol, sur il faut que ce travail d'inventaire, de reconnaissance, d'identification, il puisse se traduire pour des pétitionnaires, alors si ce n'est le pétitionnaire, au moins les services instructeurs, qui ait une meilleure compréhension des enjeux. La ville d'Aulnay a protégé au titre du PLU une vingtaine d'édifices en tout, principalement des équipements publics. Hélène, tu complètes hein, si on se trompe. Avec aujourd'hui encore la ville qui nous sollicite lorsqu'un pétitionnaire engage soit un PC, soit une déclaration sur des ensembles protégés, elle se retourne souvent vers nous pour avoir un avis. Ce qui ne relève plus forcément de notre compétence, même pas du tout, mais il y a une sorte de service après-vente qui est assuré, et qu'il faut peut-être aujourd'hui clarifier. Saint-Denis 2009-2011, alors c'est une forme d'aboutissement de la démarche. D'un point de vue organigramme, nous, ça se solde aussi par le rapprochement de deux bureaux qui jusqu'alors étaient séparés, le bureau de la recherche et de l'inventaire et le bureau du patrimoine architectural et urbain de l'autre, qui fusionnent, qui associent donc de manière étroite les chercheurs en inventaire avec les architectes et architectes du patrimoine. Et donc, dans cette association, on est lancé sur une idée qu'il fallait réellement transformer et traduire tout le travail d'inventaire par des recommandations beaucoup plus opérationnelles. Là, c'est dans l'idée, dans le principe général. Cette volonté était également mise en avant par la ville de Saint-Denis et Pleine Commune avec laquelle on a travaillé, qui était favorable à cet inventaire, à ces études, mais qui avait un besoin très concret de rendre ça intelligible pour les services instructeurs avec une nouvelle méthodologie à définir, à détailler, à rendre plus précise. Et c'est là qu'est apparue donc l'idée une idée qui n'est pas révolutionnaire, qui était déjà employée par ailleurs, mais l'idée des trois niveaux de recommandation qui permettait de ne pas mettre à un seul même niveau des objets, des ensembles qui parfois sont composés de plusieurs objets, mais d'avoir un regard plus détaillé avec des niveaux d'intervention différents. Donc du coup, ça assouplissait, si l'on veut, les logiques protection classique, on hiérarchisait un petit peu les niveaux d'intervention, ce qui était beaucoup plus facile de traduire cela pour les pétitionnaires. Et de manière plus générale, ce travail à la notice était accompagné d'un cahier de recommandations beaucoup plus général qui apportait des éléments sur les façades, les toitures et autres. Donc une approche à la fois à la notice, à l'affiche sur les objets identifiés et plus général dans le cahier de recommandation. Et à l'inverse des précédents diagnostics, la monographie historique et patrimoniale n'a pas été le préalable au travail d'identification. Là, on a travaillé un petit peu à l'inverse de nos habitudes. Le résultat, c'est que ce travail de monographie n'est pas encore finalisé chez nous. Enfin, tout du moins, il ne s'est pas traduit par la forme qu'on lui a donnée auparavant, à savoir la monographie imprimée, rendue. C'est en cours, tout est prêt, mais voilà, on a travaillé de manière inverse en mettant en avant cette fois-ci le caractère opérationnel du travail. Saint-Denis était un cas spécifique puisque c'est, comme l'a rappelé M. Vassalos, un territoire qui est fortement connu par son histoire, par son patrimoine. Il y a donc une littérature déjà importante. Nous avions déjà pu, chacun dans nos champs, nous investir sur le territoire. Donc on le connaissait un peu, à l'inverse de d'Aulnay ou d'autres territoires moins connus qui ont nécessité un investissement, au moins un biblio préalable, indispensable. Oula, l'aboutissement de la démarche, donc c'est cette cartographie des objets identifiés avec les niveaux d'hierarchie, mais là je m'aperçois qu'on ne voit pas grand-chose.
Bah, c'est ce que vous avez vu concrètement ce matin, hein,
voilà,
avec Véronique et ce dialogue entre effectivement notre service et le sien, de façon à adapter la proposition à la faisabilité effective de cette mise en œuvre d'une protection patrimoniale.
Alors, voilà, la cartographie générale qui a été proposée par le service, l'adaptation par la ville de cette cartographie, donc avec un regard plus précis, on retrouve la question des niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, qui sont pas forcément des niveaux de valeur ou de valeur patrimoniale, mais plutôt des niveaux d'intervention sur le bâti existant. Dernière phase dans laquelle nous nous trouvons encore, maintenant.
Terminé,
voilà, depuis 2014, où les grandes monographies sont terminées, le modèle dionysien a été abandonné puisque extrêmement chronophage. Enfin, on était mobilisé pendant près de 3 ans l'ensemble de l'équipe, donc on ne pouvait pas forcément reproduire ce modèle, même si le cas de Saint-Denis est réellement très particulier, très singulier, compte tenu de l'épaisseur patrimoniale et historique. Et depuis 2014, le service intervient plutôt à donner des avis patrimoniaux par le biais des personnes publiques associées ou selon les demandes ponctuelles des villes, donc en association à l'AMO qui travaille sur le PLU ou en association à un laboratoire d'une école ou d'une université qui a été mandaté par la ville pour travailler sur le PLU. C'est le cas à Bobigny, où l'école de Belleville a fait un travail très conséquent, exhaustif, et sur lequel nous sommes venus apporter nos connaissances du territoire, d'un point de vue documentaire, découverte du territoire, et qui s'est traduit par une cartographie entièrement réalisée par l'école, et une présentation des conclusions en présence de monsieur le maire. Et donc, à peu près depuis 2014 et jusqu'à 2017, enfin, fin 2017, on intervenait principalement par le biais de ces avis patrimoniaux qui se soldaient la plupart du temps par une liste d'édifices. Donc parfois, on était dans on regroupait, on synthétisait notre documentation, un petit peu de terrain pour compléter, et on adressait plutôt une liste d'édifices. Les recommandations avaient disparu, sachant que les avis patrimoniaux dans le cadre des PPA ne donnaient pas forcément la place à un niveau de détail comme pour Saint-Denis ou recommandations. Voilà l'évolution de l'intervention du service dans le cadre des PLU et des diagnostics patrimoniaux.
En redisant aussi que cet effet d'accélération, voire d'embouteillage, étant directement lié, bien évidemment, à l'application de la loi NOTRe et la perspective du PLUI qui a, en fait, démultiplier les PLU de toutes les communes qui s'en étaient pas dotées ou qui avaient pris un certain retard en la matière. Et donc, de fait, on a eu à donner des avis parfois avec une fréquence très très soutenue et interdisant de fait un investissement réellement conséquent. Et c'est pour une bonne part les données accumulées au fil du temps qui ont pu être là mises à contribution et nourrir le volet patrimonial quand il en existait un, ou le susciter quand il n'était pas là. Mais voilà, c'est une série d'adaptations au contexte et l'évolution de la législation en la matière. Si
vous avez... mon support de présentation est porté sur Internet, donc vous aurez l'ensemble des éléments à votre disposition si vous composez l'adresse patrimoine.regioncentre.fr. Voilà. Je rappelle un peu qui je suis et peut-être plus longuement. Donc Claude Kilvic, chef du service patrimoine et inventaire à la région Centre, à la direction du patrimoine et de l'inventaire. Dans l'organisation générale, nous sommes auprès d'une direction générale qui porte l'intitulé Éducation, égalité des chances et vie citoyenne. Donc vous voyez que le terme de culture ne paraît pas dans l'intitulé de la direction générale, mais nous sommes tout au moins associés et sous la responsabilité de la direction de la culture. Ce n'est pas le cas de tous les services régionaux qui ont la responsabilité de l'inventaire général dans cette collectivités. Quelquefois, mes équivalents sont à la direction de la culture, quelques autres à la direction de l'aménagement du territoire, pour le dire simplement. Est-ce que le travail d'inventaire est strictement le même dans les deux cas? On peut l'apprécier différemment. Voilà. Ce que vous avez sous les yeux, c'est un portail d'information qui, dans chaque région de France, peut être peu ou prou de la même forme. Voilà, parce que je disais tout à l'heure, je rappelais que la loi de 2004 qui a confié aux régions la responsabilité de l'inventaire général, après quelques expérimentations dont on vient de parler précédemment, a fait l'obligation aux régions d'employer bien sûr une méthode commune et a penché pour que nous utilisions tous la même méthodologie et la même structure de base de données et possiblement les mêmes outils pour diffuser ces données et les valoriser. Peut-être certains d'entre vous ont appris, reconnu Gertrude, quelquefois, dans quelques conversations. C'est effectivement le nom que nous avons donné à ce logiciel, à cette technologie qui permet de construire des dossiers d'inventaire et qui doit pouvoir permettre leur migration sur les bases nationales mérimées. Ces bases doivent être interopérables, dit-on. C'est inscrit dans les termes de loi. Je ne suis pas sûr que nous ayons réussi partout et chaque région l'interopérabilité, en fait, et le versement des données dans les bases nationales. Je rappelle toutefois que c'est l'un des fondamentaux de l'inventaire général. D'une part, pour commencer à répondre à M. Masson, l'inventaire général, c'est une méthode. Et cette méthode, ce sont des principes, conduites et méthodes qui sont publiés. Elles sont sur Internet, donc vous saurez aisément de quoi il s'agit. L'obligation du versement, excusez-moi, un petit trou, et le versement sur Mérimée. Finalement, j'ai un petit trou là, je vais me reprendre. Le Gertrude, c'est groupe d'études et de recherche pour la construction du dossier électronique, grosso modo, et de recherche technique sur la documentation du dossier électronique. J'ai participé à ce groupe d'études et disons qu'à l'inventaire général, nous sommes quelques-uns à avoir un profil techno et je suis de ceux-là. Parce que nous distinguons au sein de nos chercheurs les conservateurs du patrimoine d'une part, formés à l'Institut national du patrimoine, et les ingénieurs territoriaux aujourd'hui, les anciens ingénieurs de recherche ou ingénieurs d'études au ministère de la Culture, dont je fais partie. Donc, aujourd'hui, ma responsabilité est un petit peu différente, je vous en dirai plus plus tard. Mais tout au moins, je suis de formation d'histoire de l'art comme l'essentiel, en fait, de nos chercheurs et comme vous l'êtes probablement en Seine-Saint-Denis. Nous n'avons pas d'architecte au sein de nos équipes. Très clairement, pour aller droit au but aussi, excusez-moi, ma présentation n'est peut-être pas structurée, elle va porter là-dessus, mais je vais poursuivre. Mais je voudrais ne pas oublier d'écrire les choses simplement. L'inventaire général identifie, localise et en quelque sorte évalue le patrimoine dont nous héritons. Hein, pour le dire très simplement aussi et de manière très provocatrice, qu'est-ce que c'est le patrimoine pour moi, sinon ce que nous héritons? Voilà. Autrement dit, c'est tout notre cadre de vie. Voilà. Alors, est-ce que nous l'étudions complètement? L'inventaire général, sa méthode aussi, pour le faire vite et court, repose sur le croisement de deux sources. L'objet que nous observons in situ et que nous analysons, et ensuite la source écrite et l'archive qui nous en restitue un autre récit éventuellement. Et notre conclusion repose sur l'analyse de ces deux sources et son explication en quelque sorte. Nous faisons peut-être une évaluation, nous faisons peut-être une hiérarchisation, mais nous essayons de ne pas apporter de jugement. Un jugement qui serait peut-être utile lorsque vous réalisez, par exemple, des recommandations. Je ne parlerai pas de prescription. Est-ce qu'il m'est arrivé de faire des recommandations à l'occasion de mes travaux d'inventaire général? Jamais. De prescription, encore moins. Ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon savoir-faire, et pour ça, nous nous associons aux architectes. À l'UDAP, aux architectes du patrimoine, aux chargés d'études qui réalisent des plans de sauvegarde, etc. Bon. Mon expérience est celle d'un chercheur, d'un enquêteur sur le terrain, autant la Bretagne que le centre Val-de-Loire aujourd'hui, mais mon expérience bretonne est plus longue certainement encore que mon expérience dans le Val-de-Loire. C'est celle de l'inventaire général, c'est-à-dire que le patrimoine dans toutes ses diversités, le patrimoine urbain, le patrimoine rural, le château, la ferme, mais aussi le retable, le calice, l'ostensoir, la machine-outil, etc. Je suis un généraliste du patrimoine. Et j'ai tendance à considérer qu'une œuvre patrimoniale, notamment une église, son intérêt repose autant sur la forme architecturale que sur son décor et que sur son mobilier. Si je devais faire des recommandations, chose que je ne risque pas à faire, je pourrais dire qu'une église, à certains endroits, est notamment du 19e, dans la production de tels architectes diocésains et communes, mais qu'elle recèle un trésor archéologique manifeste avec des tissus du 18e, des ostensoirs du 16e, etc. Nous essayons d'étudier ça comme un tout. Voilà. Donc voilà ce que réalise le généraliste que je suis. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ça, parce que vous connaissez l'inventaire général. Nous sommes là pour parler, je me suis risqué, je crois que l'intitulé c'était le diagnostic patrimonial. Ah, ce fameux mot diagnostic, on l'utilise beaucoup en ce moment. Moi j'ai travaillé à l'inventaire général au moins pendant 20 ans sans que personne n'ait prononcé le mot diagnostic. Hein. Voilà. On commence à le prononcer, en tout cas chez nous, depuis la décentralisation certainement. Certainement. Et depuis que certains services sont passés du côté de l'aménagement, la direction de l'aménagement du territoire, c'était le cas en Bretagne, c'est le cas en Bretagne d'où je viens. Diagnostic. Si j'ai accepté, à l'occasion d'une enquête sur la Riche, Fanny Mer peut en témoigner parce que nous avons collaboré, nous sommes rencontrés à cette occasion. De me risquer à une expérimentation en matière de diagnostic, c'était parce qu'il me semble que les principes, méthodes et conduites de l'inventaire général permettent une certaine souplesse. Puisque nous évaluons en quelque sorte une œuvre, pourquoi ne pas restituer cette évaluation, à ceux qui ont besoin de recommandations? pourquoi ne pas établir qu'il y a certaines échelles de valeur entre telle maison du 15e? Alors, vous disiez en Seine-Saint-Denis que le critère d'altérité de l'œuvre était un critère important. Mais vous, finalement, il me semble, vous allez me dire si je me trompe, que vous portez votre évaluation sur un ouvrage qui est assez neuf, finalement. Il a 100 ans. Voilà. Si vous portiez le même regard sur une œuvre qui a 500 ans, votre évaluation serait très, très différente. Parce que, évidemment, depuis 500 ans, cette œuvre a été modifiée. Nous pourrions dire qu'une abbaye devenue une usine, c'est assez fréquent, a été dénaturée. Nous ne le disons pas. Par contre, s'il s'agissait d'un manoir transformé en villa de plaisance, nous parlons souvent de dénaturation. Ou un manoir transformé en immeuble de logement, nous parlons de dénaturation. C'est assez intéressant ce terme de dénaturation, il est aussi intéressant que le terme de diagnostic. En général, un inventaire, surtout chez les anciens, certains collègues identifiaient un patrimoine et le restituaient d'autorité, c'est-à-dire qu'ils faisaient un dossier ou n'en faisaient pas. Et le critère de jugement qu'ils appliquaient, c'était cette œuvre dénaturée. Autrement dit, elle ne fait plus partie du patrimoine, puisqu'on ne va pas la documenter, on ne va pas la restituer à autrui et on ne va pas la valoriser. Dans les bases Mérimée aujourd'hui, si vous étudiez la documentation qui a été publiée dans les années 90 sur certaines communes rurales, je connais mieux ce milieu, on vous restitue 20 dossiers d'œuvres. Là où vous aviez un millier d'édifices et 500 encore portés par le cadastre ancien et encore 200 à peine modifiés. Pourquoi vous en restituez 10% seulement? C'est le cas dans Mérimée aujourd'hui. Voilà. Parce que d'une part, on appliquait ce critère d'autorité de sélection sur le terrain. Et après qu'on ait appliqué ce critère, ceci en fait partie, ceci n'en fait pas partie, ceci n'en fait pas partie parce que ça a été dénaturé, transformé. Là où vous aviez une fenêtre du 16e agrandie en 1950, dénaturé. Quoi que vous ayez à l'intérieur, hein. Une cheminée qui porte la mention 1680, réalisée par un tel, etc. encore, et des dispositifs et des cloisonnements très, très intéressants. Mais voilà. Un élément de transformation à l'extérieur. Donc, c'est un petit peu la caricature ce dont je vous parle là, mais c'est quand même les réflexes qu'il y avait dans les esprits. Et après, le deuxième élément très intéressant qui nous amène à une sélection sur un ouvrage, c'est lorsque nous sommes face à un grand nombre. Autrement dit, nous étudions les maisons. C'est des éléments en grand nombre dans les communes. Hein. Nous avons une église, deux usines, une mairie, une école, une gare, mais nous avons 100 maisons, 500 maisons, etc. Nous sommes sur le grand nombre. Comment fait-on un inventaire général? Sur le grand nombre, nous appliquons ce que nous appelons les critères de repérage. Je reviendrai sur les mots recenser, repérer et sélectionner après, ou inventorier. Ça a du sens aussi, ça, ces éléments-là. Nous appliquions les critères de repérage parce que sur les familles d'œuvres, dans les dossiers collectifs, pour ceux qui sont amateurs de dossiers d'inventaire, nous appliquons une sélection de 5 à 20% des œuvres. C'est-à-dire qu'il nous suffit de 5 à 20% d'œuvres pour parler de la classe des œuvres, des différentes classes et des différentes familles et des différents groupes. Voilà. Et c'est ça qui est surmérimé. Mais les œuvres simplement repérées par le chercheur ne sont pas restituées individuellement dans des fiches, donc vous ne les trouverez pas. Si vous ne fournissez aux aménageurs que les fiches, vous leur livrez simplement 10% du patrimoine. Concernant cette famille-là, hein, des grandes familles d'œuvres, des maisons ou des fermes, si vous êtes en domaine rural. Avec les dossiers électroniques, nous avons accepté de restituer l'ensemble du repéré. nous avons, ou dirait-on, l'ensemble du recensé. Et je pense que nous privilégions, lors du versement sur Internet, sur les bases mérimées, le versement des sélectionnés. En tout cas, en fonction de critères statistiques et scientifiques. Mais ce sont des éléments qui occultent une partie du patrimoine, indéniablement. Bon, il faut que je revienne là parce que le temps passe. Vous trouverez ici le diagnostic patrimonial de la commune de La Riche. Alors.
Excusez-moi, vous pourriez nous citer l'adresse parce qu'en fait on ne voit pas très bien.
Oui. patrimoine.regioncentre.fr. https://. Le terme de diagnostic. Les services régionaux sont penchés sur la question à l'occasion d'une rencontre à Angers, je ne sais plus si c'est en 2014 ou... J'ai oublié. C'est dans la documentation que vous allez trouver là. Vous allez cibler La Riche. Là, c'est le site régional avec un certain nombre de dossiers que nous venons de publier. Une nouveauté maintenant, et que vous verrez paraître dans Mérimée, ou les formes à venir de Mérimée, vous n'avez pas seulement des dossiers d'œuvres étudiées, manoirs, églises, chapelles. Vous avez aussi les dossiers qu'on appelait autrefois les dossiers généralités, qu'on appelle aujourd'hui, qui offrent une synthèse communale. On en a parlé, M. Furiot en a parlé, pour ce qui concerne le département. Mais vous avez aussi un dossier très intéressant qui a été inventé par les services régionaux, plus la mission. Il y a encore une mission au sein de l'inventaire général, au sein de la direction des patrimoines au ministère de la Culture, et ainsi que le Conseil national de l'inventaire, dont j'étais ancien membre, en fait. Donc, les services sont réunis à Angers pour discuter des diagnostics. Qu'est-ce qu'il en ressort, pour le dire en résumé? Il n'y a pas un diagnostic, mais il y a autant de diagnostics qu'il y a de régions. Voilà. Donc, là, on est déjà un petit peu embêté, hein, parce que... Et d'autre part, si nous publions nos principes, méthodes et conduites de l'inventaire général, nous n'avons jamais publié une méthode diagnostique, puisqu'il n'y a pas une méthode commune. Voilà, très très clairement. Donc nous, à La Riche, on s'est essayé à un exercice particulier de diagnostic. L'un des éléments très importants en matière d'inventaire général et de responsabilité confiée aux régions avec l'obligation de verser sur les... base nationale, c'est que pourquoi fait-on ça? Nous étudions les œuvres de la même façon avec un vocabulaire partagé, mais il est absolument indispensable de comparer les œuvres d'un territoire à l'autre, d'un département à l'autre, d'une région à l'autre. C'est pour ça que j'aimerais tellement que vous trouviez l'occasion avec la région Île-de-France convenir du versement, parce que c'est l'une des missions fondamentales de l'inventaire général, de porter à la comparaison l'ensemble des éléments que vous collectez, que vous restituez, que vous élaborez. Donc là, on le voit peu, mais vous êtes sur le diagnostic patrimonial. C'est l'un des dossiers, comme il existe des dossiers d'œuvres. Mais c'est un dossier intéressant parce que c'est en quelque sorte la boîte à outils. C'est celui-là que je vous conseille d'aller voir quand vous tapez diagnostic patrimonial. C'est celui-là qui vous dit comment nous avons fait. Nous avons procédé à La Riche d'une manière et concentré nos efforts sur le recensement, sur la collecte de l'information sur le terrain. Là où nous avions 1000 bâtiments, par exemple, je ne dis pas, non pas bâtiments, édifices, nous avons quasiment restitué l'ensemble des édifices. Nous avons porté le recensement complet à la disposition de tous. Alors nous avions identifier, dénommer une œuvre, localiser l'œuvre, dater l'œuvre depuis l'analyse stylistique et morphologique. Et nous avons porté tout ça dans un système d'information géographique et nous avons rajouté quelques éléments d'évaluation supplémentaires. Et c'est là qu'est en quelque sorte l'expérimentation. Vous trouverez ça parmi les annexes. Expérimentation de l'évaluation patrimoniale, la méthode ERIC. La réflexion partagée sur le diagnostic au cours des journées d'Angers de janvier 2013, organisées par le ministère de la Culture, rappelait que l'évaluation à l'inventaire se fait dans la continuité de la démarche de connaissance. Le chapitre « L'enquête topographique sur le bâti et les espaces dans principes, méthodes et conduites de l'inventaire général » délimite bien le champ de l'évaluation qui doit être construite sur des critères vérifiables, rareté, représentativité, appartenance à un ensemble cohérent, état de conservation. Parce que quelquefois, j'ai entendu autour de moi que lorsque je proposais cette expérimentation du diagnostic, je quittais l'inventaire général en faisant de l'évaluation. Là, je rappelle à mes critiques que c'est écrit dans les principes, méthodes et conduites de l'inventaire général. L'évaluation est possible sur notamment les critères vérifiables de rareté, représentativité, appartenance à un ensemble cohérent. C'est-à-dire que, voilà, et j'ai poursuivi. Ainsi, à la riche, aux critères sommaires de repérage, désignation, localisation, datation et description, nous avons associé une échelle d'évaluation ERIC portant sur les critères suivants. ERIC, le E pour exceptionnalité de l'œuvre, mesurable à l'échelle régionale. Rareté, mesurable à l'échelle locale. Intégrité, mesurable à son état initial. Et contextualité, mesurable à son degré d'intégration dans un contexte de proximité. L'un des critères mesurables, la rareté, je vous le disais tout à l'heure, a été réévalué après expérience par l'application d'un facteur multiplicateur variant en fonction de la temporalité des œuvres. Par exemple, un édifice du 17e est de fait généralement plus rare qu'un édifice du 20e dans un territoire en développement continu et de leur destination. Une église paroissiale est par nature unique à l'échelle locale, une maison ne l'est pas dans le même contexte. Donc vous devez absolument pondérer en fait, vos critères, et notamment celui de rareté en fonction de la destination des œuvres. Donc, les œuvres de la limite du 20e et du 21e siècle ont été tenues à l'écart de cette évaluation. Fanny Maire a pu m'en vouloir sur certains ensembles, notamment grands ensembles, sur lesquels je n'ai fait aucun commentaire et aucune évaluation. Parce que là, d'une certaine façon, j'ai voulu me tenir dans les fameuses limites des 30 ans de l'inventaire. C'est-à-dire que qu'est-ce que le patrimoine, sinon ce dont nous héritons. Donc, 30 ans, etc. 30 ans pourquoi ? Ce n'est pas une commodité, c'est une raison. C'est-à-dire que je vous disais qu'on a deux sources, en fait, pour nourrir notre travail. C'est la source matérielle in situ et c'est les archives. Les archives au-delà de 30 ans et même au-delà de 70 ans sont quelquefois non communicables. Donc je n'ai pas cette source. Et si je n'ai pas cette source, j'ai des difficultés à me prononcer. Je n'ai pas de recul. Donc sur les œuvres les plus contemporaines, effectivement, je suis un peu embêté. Donc on a tenu les œuvres de la limite du 20e et du 21e siècle dans le langage d'inventaire 1975-2025, à l'écart de notre évaluation. Même si certaines œuvres, et vous l'imaginez tous, de notre contemporanéité, et on le voit à côté de cette mairie, des années 90 ou même des années 2000, sont déjà des éléments du patrimoine, compte tenu de la forme plastique, voilà, esthétique, compte tenu de la notoriété de l'architecte, etc. Ce sont des œuvres patrimoniales de fait. Donc les résultats quantifiables de cette évaluation sont restitués à une échelle de 4 niveaux, un niveau d'intérêt très élevé à faible. Est-ce que j'oserais dire étoile ? Les édifices de niveau très élevé réunissant les qualités historiques, artistiques ou techniques, toujours uniques ou exemplaires. À cette échelle du territoire, les édifices de niveau élevé, des qualités potentiellement exemplaires, dignes d'intérêt et d'être remarqués. Les édifices de niveau moyen et faible sont les édifices ordinaires ou dénaturés, manquant ou ayant perdu leur caractère spécifique ou leur valeur d'exemplarité. En quelque sorte, voilà, mon évaluation, elle est restituée suivant ces quatre niveaux, ces quatre étoiles. Maintenant, je vous laisse la possibilité de commenter ces mots. Alors, pour ceux qui nous connaissent mal, je pourrais rajouter un élément. L'inventaire général identifie les édifices sur, en fait, un critère fonctionnel. Hein, c'est-à-dire qu'il faut que nous arrivions à déterminer ce à quoi cet objet servait. Une usine de production, une église, voilà. Nous sommes attachés à l'édifice et non au bâtiment. C'est-à-dire que quand je fais l'inventaire d'une ferme, je ne fais pas l'inventaire des granges, je ne fais pas l'inventaire des puits. Hein. Je fais l'inventaire d'une ferme qui a éventuellement un composant grange, un composant étable et un composant puits. Et c'est la ferme que je vous restitue, hein, d'une part. D'autre part, je vous restitue la ferme sur le fond historique qu'il a porté. C'est-à-dire que sur un ensemble de parcelles cadastrales qui ont été remembrées. Mais peu m'importe. Je redessine le fond comme je l'entends, suivant la valeur, l'historicité de l'ouvrage. Ici, vous avez différentes cartes. Là, mais on ne voit pas. C'est en quelque sorte une représentation du SIG. Il faut que je raccourcisse. 5 minutes. Oui. C'est une fiche de repérage. Voilà, j'ai travaillé avec une tablette. C'était l'une des expérimentations aussi que je voulais réussir. Alors, je ne voulais pas saisir ça sur un formulaire papier et le retranscrire au bureau. Donc on a utilisé une tablette avec des ressources, des fonds cartographiques. On a construit une base de données. On a travaillé avec ArcGIS Online pour l'aspect technique. Et tout ça a été poussé sur les ressources régionales. Chaque œuvre a été photographiée. Nous avons superposé des cartes historiques. On le voit mal, mais ce que vous voyez en brun, c'est le cadastre ancien, hein, superposé sur une cartographie contemporaine. Et nous avons... publier nos résultats. Ici, c'est une carte suivant les niveaux d'intérêt, les quatre niveaux d'intérêt dont je vous parlais. Ici, c'est une carte suivant les fonctions originales des œuvres, etc. Donc, vous trouverez ces éléments-là à disposition. Ce système d'information géographique et ce système en fait, documentaire... c'est celui que nous empruntons à Mérimée. Nous n'avons pas restitué l'ensemble des 1000 édifices dont je vous parlais, mais une sélection ou une présélection des œuvres. Donc vous avez une vingtaine de dossiers, mais nous avons fourni à l'agence d'urbanisme de Tours avec qui nous avons travaillé l'ensemble de la collecte et des recensés avec les échelles de valeur. Mérimée n'a pas pour vocation de porter ces échelles de valeur, donc ces échelles-là, sur chaque édifice, vous ne les verrez pas, mais sur certains édifices incontournables de valeur exceptionnelle, comme le château de Plessis-les-Tours qui abritait la demeure de Louis XI, nous avons démarré un dossier d'œuvre. Reste que ce diagnostic, qui est avant tout porté par le recensement, donc un inventaire topographique, ne nous ont pas engagés très très loin dans les sources, je vous le disais. Simplement, il y en a quelques-unes qui sont assez bien connues, et notamment ce sont les fonds iconographiques des archives départementales qui nous permettaient tout de même de restituer tout ce que nous avons croisé, et notamment les cartes postales aussi du début du XXe siècle sont très très utiles. Donc, pas beaucoup d'investigations archivistiques et historiques. Il n'empêche qu'à un degré premier, les fonds les plus aisément accessibles et iconographiques, nous les restituons. Voilà.
Donc, je vais vous parler du volet patrimoine du PLU d'Angers-Loire Métropole. Donc je vais aborder en fait la méthode, puisqu'en fait c'est un volet, enfin le PLU intercommunal d'Angéloire Métropole a été fait en interne. Donc c'est une histoire qui remonte à 2010, au moment en fait de l'annulation du PLU d'Angers. Il y a eu en 2010 l'annulation du tribunal administratif du nouveau PLU d'Angers. Donc Angers s'est retrouvé avec un poste de 1978, donc ils étaient contents. Toute une équipe en fait d'urbanistes et moi-même architecte, on a été recrutés à cette époque-là pour élaborer le nouveau PLU, donc qui est devenu intercommunal. Donc à l'époque sur 4 communes, et puis en fait au fur et à mesure dans du temps des lois, etc., on en est arrivé à faire un PLU intercommunal sur donc les 33 communes à cette époque-là d'Angéloire Métropole. Et donc comme le PLU d'Angers a été annulé, donc entre autres, mais pas que, pour des raisons de manque de développement de la thématique en fait patrimoine, les élus ont souhaité évidemment mettre un accent un peu plus fort sur ce volet-là, parce que aussi ça correspondait effectivement à un intérêt accru de la population et donc des associations. Nous, il faut savoir que sur Angers, Loire Métropole, on a des associations du patrimoine en fait qui sont très fortes. Et d'ailleurs, c'est elles qui ont réussi à faire annuler le PLU d'Angers. Et puis également, c'est vrai que des exigences aussi de plus en plus fortes au niveau des documents d'urbanisme. Et puis également pour harmoniser en fait le PLU sur parce qu'en fait sur Angers-Loire Métropole, donc il y avait le PLU d'Angers, mais les autres communes d'Angers-Loire Métropole avaient elles-mêmes déjà, pour certaines, pas toutes, mais des PLU intercommunaux. Donc en fait il y avait 4-5 PLU, il restait 2 postes plus le poste d'Angers, donc des documents très disparates. Donc l'idée, c'était d'harmoniser aussi, tout en gardant les spécificités de chaque commune, mais d'harmoniser pour avoir plus qu'un seul document de PLU. Donc oui, le cadre réglementaire, on en a déjà parlé. Donc l'article L151-19, donc, qui a changé de nom plusieurs fois et qui porte ce nom-là aujourd'hui. Nous, on a aussi utilisé le L151-11, en fait, qui est plus pour du changement de destination, mais qui indique quand même que c'est du patrimoine, hein, surtout en zone agricole. Et puis, effectivement, aussi un cadrage réglementaire du SCOT. Bon, pour aller assez vite, donc on est aussi parti d'un postulat par rapport au patrimoine, c'est-à-dire que le postulat, c'était de dire qu'on est dans un document d'urbanisme aussi, surtout, essentiellement, et donc qu'on n'est pas sur un document ni historique, qu'on n'est pas sur un document d'historique. Donc on peut-être avoir des objectifs un petit peu différents. Et on va voir dans la suite qu'effectivement, je suis persuadée qu'on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs à atteindre que pour un document historique. Et donc, on est parti également d'une notion de patrimoine que je trouve intéressante, qui est de Françoise Perron, qui est de dire le patrimoine est un fait du présent qui opère un tri sur le passé. Ça veut dire que le patrimoine est évolutif. Moi, c'est vrai qu'on se rend compte quand même par rapport à une vingtaine d'années, par rapport au patrimoine industriel, par exemple, à une certaine époque, il n'était quand même pas pris en considération du tout. Il l'est aujourd'hui de façon évidente, mais c'est quand même une évolution dans le temps. Et donc, en conséquence, c'est quand même, cette notion de patrimoine, elle est assez subjective. Ensuite, donc, de dire que notre document d'urbanisme qui développe un volet patrimonial, mais ce n'est pas un inventaire du patrimoine, donc ce n'est pas exhaustif. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on a pris le parti de ne pas identifier ce qu'on pourrait appeler le petit patrimoine, de croix, des calvaires, etc. D'abord parce qu'au début, il y avait aussi le fait qu'il fallait qu'on fasse ce PLU-là très rapidement pour éviter qu'Angers reste sous son poste de 1918 trop longtemps. Donc, faire un repérage sur les 33 communes de tout le patrimoine de manière exhaustive, on n'avait pas le temps, quoi, clairement. Et on s'est rendu compte aussi que ce petit patrimoine, ces éléments de croix et calvaire, beaucoup étaient quand même dans l'espace rural, où il n'y avait pas d'enjeu de développement, d'aménagement, en fait. Donc voilà, on a pris ce parti-là également. Et en même temps que c'était aussi un travail complémentaire avec tous les outils de protection déjà existants sur le patrimoine. C'est-à-dire que les éléments qui étaient déjà identifiés en monuments historiques, on ne les a pas réidentifiés en éléments dans notre volet patrimoine, parce qu'ils ont déjà leur propre protection, etc. Et puis le dernier postulat, c'était de dire qu'on devait faire une méthode globale et cohérente sur toute l'agglomération, c'est-à-dire sur les 33 communes, avec l'objectif de mettre en exergue les singularités des territoires en préservant leurs caractéristiques, mais également de permettre à la ville d'évoluer tout en valorisant la richesse de son patrimoine bâti. Parce que c'est quand même aussi l'objectif d'un PLU, en fait, c'est l'aménagement quand même aussi. Donc bon, les rappels des orientations du PADD, donc effectivement prendre en compte le patrimoine protégé, bon ça c'est une obligation. Identifier et valoriser donc le patrimoine qu'on a appelé local, renforcer la qualité urbaine en s'appuyant sur le cadre bâti, et mettre en scène le patrimoine au bénéfice de la qualité urbaine et permettre des nouveaux usages. Voilà, donc voilà à quoi ressemble Angers-Loire Métropole à cette époque-là, donc quand on a commencé le volet patrimonial, donc avec un patrimoine emblématique, exceptionnel et reconnu, donc avec des protections et des labels déjà importants, donc 159 monuments historiques, des sites classés, des sites inscrits, un SPR, enfin c'est une ex-AVAP déjà intercommunale, qui était issue de deux ZPPUP précédemment, qui aujourd'hui donc est devenu site patrimonial remarquable. Du patrimoine labellisé, donc Angers, ville d'art et d'histoire, mais aussi du label des petites cités de caractère sur des communes ligériennes, et puis du label patrimoine 20e, et puis également une partie du territoire, notamment le territoire ligérien, qu'on voit là, sur cette partie-là, là, un périmètre mondial UNESCO, plus des zones de sensibilité archéologique, plus également des choses qui ne sont pas figurées là, toutes les protections environnementales existantes, SNIEF, Natura 2000, etc., PPRI, espaces naturels sensibles, etc. Donc il y a eu aussi un travail en fait sur les périmètres des abords des monuments historiques, sur 35 monuments historiques de l'agglomération, les périmètres ont été revus. Sur les autres, les services de l'UDAP ont souhaité garder les périmètres de 500 mètres. Donc ça pouvait aller soit en réduction, comme on le voit ici sur le premier schéma, hein, donc les parties plus sombres, en fait, c'est les nouveaux périmètres délimités des abords, soit au contraire en agrandissement, donc ici plutôt vers le sud. Donc ça, c'était pour la partie patrimoine exceptionnel, on va dire, et déjà protégé, en fait. Et donc là, la partie patrimoine non protégé, donc c'est ce volet-là, en fait, qu'on a appelé le volet patrimoine de notre PLU. Donc on a élaboré une méthode, une méthode en trois étapes, avec un travail homogène sur toutes les communes du territoire, une démarche qui a été partagée avec les techniciens et les élus locaux, mais aussi les personnes publiques associées, les partenaires associés, la DRAC, les associations, avec plusieurs S, même j'aurais dû mettre parce qu'il y en a plusieurs, et services de l'inventaire. Donc une démarche en trois étapes, donc une première étape de repérage, une deuxième étape d'identification et une troisième étape de définition des outils réglementaires. Donc la première étape de repérage, donc un travail diagnostique sur les 33 communes, avec quand même, malgré tout, une petite différence entre la méthode utilisée sur Angers et la méthode utilisée hors Angers, puisqu'en fait, sur Angers, on a un inventaire donc, qui a été réalisé par le service inventaire de la ville donc, et de la région. Cet atlas du patrimoine, donc, alors on ne voit rien là, en fait, mais Ce qu'on pourrait voir, ce que vous devriez voir normalement sur ce plan, c'est tous les éléments qui ont été identifiés. Donc là, on est sur le centre, la partie vraiment très dense d'Angers, donc sur le centre historique d'Angers. Donc en fait, ce site-là, il est vraiment couvert par tous les éléments qui ont été répertoriés par les services de l'inventaire. C'est-à-dire qu'en fait, sur Angers, on a quasiment 3000 éléments qui étaient répertoriés par l'inventaire. Alors il faut savoir que cet inventaire-là, il a été commencé il y a de nombreuses années, voire des dizaines d'années. En fait, c'est un travail de 30, voire 40 ans. L'inventaire d'Angers qui aujourd'hui il n'est pas fini, mais ils le reprennent, mais voilà. Et donc depuis ces dizaines d'années, effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui ont disparu. J'avais dû en dénombrer 500 qui avaient disparu, donc il n'en restait plus que 2500. Et puis il y a aussi des éléments qui sont répertoriés et qui pour nous ne nous semblaient pas. Je vais me faire lyncher si je dis ça, mais qui ne nous semblait pas d'un intérêt pour le PLU, en fait, pour un document d'urbanisme. C'est-à-dire qu'on a certains éléments, par exemple, qui ont été repérés. Alors, il y en a un que je cite à chaque fois, mais il a été repéré parce que sur la façade, il y a une petite mosaïque qui est grande comme ça, qui représente une tête de vache. Bon, dans notre PLU, ça ne nous semblait pas essentiel de préserver cet élément-là, quoi. Donc, voilà. Donc, il a fallu qu'on fasse un tri, donc, avec les services de l'inventaire. Ils ont eu beaucoup de mal, effectivement. Ils ne voulaient pas, de toute façon, faire un tri. Pour eux, tout était intéressant. Alors, c'est vrai que nous, les services de l'inventaire de la région également, sur notre région, Pays de la Loire, donc, c'est des historiens aussi, donc c'est pas des architectes, donc c'est vrai que je sais pas si s'il y a un lien, mais les historiens veulent pas faire de tri, en fait pour eux tout est intéressant, voilà. Donc, mais on a réussi quand même à travailler avec eux et donc à faire un espèce d'écrémage en fait quand même, et à retenir les éléments qui nous semblaient plus intéressants, et à regrouper également, parce qu'en fait leur inventaire, il était aussi très ponctuel avec sur certains édifices. Et nous, on trouvait finalement que pour le PLU, ce qui était intéressant par moment, c'était de regrouper tous les éléments dans une rue. En fait, par exemple, ils avaient identifié 2, 3, 4 bâtiments qui étaient intéressants. Nous, on disait, finalement, c'est toute la rue qui est intéressante. Donc, on prend tout le front bâti d'un côté et de l'autre côté. Donc, du coup, ça nous fait un élément, hein, mais pour nous, un élément, c'est pas un édifice. C'est un ensemble, ça peut être un ensemble d'édifices, ça peut être une rue entière, ça peut être un quartier, ça peut être un îlot. Donc, pour ce travail-là, on a également utilisé l'Atlas du patrimoine. Donc, qui est fait par de la région, qui est fait par la DREAL et qui donne des caractéristiques en fait des unités paysagères de notre territoire. Parce que nous, on a l'intérêt en fait d'être sur un territoire qui a des caractéristiques paysagères très 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 différentes entre le Val de Loire par exemple et puis le nord de d'Angers-Loire Métropole, où on est plutôt sur les marches du Segréen en fait, qui sont de l'autre côté par exemple, enfin, bon, bref, avec des identités et donc des formes de bâti et puis même de couleurs, de matériaux, etc., qui sont très différentes. C'est-à-dire que sur le nord-ouest, par exemple, on est beaucoup avec du schiste, avec de la brique, de la brique, pas comme ici, mais de la brique plutôt en ornementation, c'est-à-dire en chaînage, en linteau, en décor autour des baies. Et puis sur le Val-de-Loire, on est plutôt sur du tuffeau, donc avec des couleurs très différentes. Et puis on a effectué également un travail sur la morphologie du bâti, puisqu'en fait on a aussi dans le PLU l'outil hauteur, enfin volumétrie ou gabarit, qui est intéressant aussi par rapport au patrimoine. Donc ça a été ce premier repérage, puis avec beaucoup de terrain et aussi évidemment on a utilisé les cartes IGN qu'on a parcourues de long en large tout autour de l'agglomération. Et puis on avait d'autres documents sur les autres communes. Alors il y avait les bases mérimées effectivement qu'on a utilisées, Mais la base Mérimée, certaines communes, je vois par exemple, je vais revenir un peu en arrière, certaines communes de l'ouest là, de l'agglomération ne sont absolument pas, enfin, il n'y a pas eu de repérage de Mérimée sur ces communes-là, par exemple. Donc on avait quand même sur certaines communes des associations de patrimoine qui nous ont aidés, enfin, ou au moins qui nous ont apporté leur propre recensement. Alors dedans, effectivement, il y avait beaucoup de croix et de calvaires, etc., qu'on n'a pas forcément retenu, mais au moins on en a discuté avec eux. Voilà, plus des parutions comme des éditions du Floic, etc. Enfin, le cadastre napoléonien aussi, évidemment, qu'on a utilisé. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on a utilisé énormément quand même de matière. Donc après le repérage, après avoir repéré tous ces éléments, donc on a élaboré en fait quand même une classification par catégorie, parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'il y avait des catégories qui pouvaient ressortir de tout ça. Et puis on a sélectionné certains éléments par catégorie avec des critères qui ont été voilà, qui sont quand même des critères assez proches de tous les repérages qu'on a pu entendre aujourd'hui. C'est-à-dire, enfin, on a aussi un critère de représentativité dans le grand paysage, par exemple, qui est clairement lié à la classe des patrimoines. Bon, la singularité de l'élément, la qualité architecturale, évidemment, le rôle structurant de l'élément dans l'espace et dans son environnement immédiat. Ce qui n'est pas noté, c'est l'histoire, enfin l'historique, mais en fait, pour nous, il est inclus un peu dans tout ça. Et donc, on a fait une sélection d'éléments à prendre en compte dans le PLU qu'on a formalisé sous forme de fiches comme ça, qui ne sont pas des fiches qu'on pourrait, enfin, comme dans les inventaires, mais qui sont des fiches en fait, qui nous ont permis de communiquer avec les communes et les partenaires associés. Les communes ont toujours, donc elles ont un petit document en fait sur leur commune avec tout le repérage en fait de tous ces éléments-là, donc qui peut aussi les aider dans l'instruction. Parce qu'en fait, Angers-Loire Métropole maintenant, aujourd'hui, instruit, mais pas en totalité de son territoire, pas sur la totalité de son territoire. Il y a encore quelques communes qui instruisent sur leur propre territoire. Voilà. Et donc après, donc on a utilisé pour la partie réglementaire, évidemment, plusieurs outils. Donc bon, le règlement et puis donc l'article L151-11 et puis le zonage et puis le plan de hauteur, mais aussi un document, une annexe patrimoine au règlement, où là en fait on est sur de l'identification avec le L151-19. Dont le premier objectif, évidemment, c'est d'instaurer un permis de démolir, mais qui ne modifie pas la règle de la zone, et indiquer aussi le patrimoine à prendre en compte et comment, par des dispositions qui sont plus ou moins fortes quand même selon le patrimoine. Donc voilà, ça se présente en fait comme ça. Donc en fait, ça c'est les documents du PLU d'Angers, enfin une partie des documents du PLU d'Angers-Loire Métropole. Donc en fait, le patrimoine, le volet patrimoine du PLU d'Angers-Loire Métropole, il n'est pas uniquement ni dans le règlement ni dans l'annexe patrimoine, mais il transparaît un peu dans tous les documents, c'est-à-dire dans le diagnostic, l'état initial, l'évaluation environnementale, la justification des choix, le PADD, et puis tous ces documents-là. Et puis également, on a un plan de zonage qui est dissocié en fait du plan des hauteurs. Donc notre plan des hauteurs, en fait, on a souhaité le dissocier pour pouvoir justement jouer aussi sur les hauteurs, enfin que les hauteurs ne correspondent pas forcément au secteur de zonage. C'est-à-dire dans une zone, on n'est pas toujours à la même hauteur. Et puis on a également des OAP aménagement et une OAP sur le Val-de-Loire. Et puis donc la VAP, enfin SPR ligérienne maintenant, et un SPR sur Angers qui est en cours. Alors je peux juste dire qu'hier justement on était en commission nationale pour le SPR d'Angers, et donc on a un avis favorable de la commission à l'unanimité. Donc on est content. Ce n'est que le début. Mais bon, voilà. Pour Hop là. Dans l'annexe patrimoine, donc en fait notre annexe elle est structurée comme ça. On a donc toutes, enfin on a les catégories du patrimoine avec une description des catégories, enfin de chaque catégorie. Donc on a quatre grandes catégories en fait, qui sont des ensembles bâtis singuliers, des ensembles bâtis séquentiels, des édifices bâtis singuliers et des éléments de patrimoine, petit patrimoine local. Donc, sous ces quatre grandes catégories, on a des sous-catégories, mais je ne vais pas le détailler là. Et donc, à chaque grande catégorie, donc, on a une description, les caractéristiques de cette catégorie, et puis des dispositions générales, en fait, qui y sont associées. Et puis après, pour chaque sous-catégorie, on a également des descriptions des caractéristiques et puis des dispositions spécifiques pour certaines, où là, c'est plus ou moins développé suivant l'intérêt et suivant les catégories. Visuellement, sur le plan de zonage, parce qu'en fait, nous, notre identification du patrimoine, on l'a mise sur notre plan de zonage. Donc, en fait, on a trois motifs qui identifient le patrimoine, à la fois le motif d'une croix pour des édifices, un trait pour des éléments de patrimoine qui peuvent être des murs mais aussi des fronts bâtis et puis une trame en fait qui correspond à des ensembles patrimoniaux qu'on peut le voir ici. Là on a plutôt un ensemble ici on est plutôt sur des fronts urbains avec où on peut se repérer en fait. Chaque catégorie reprend aussi un double lettrage, donc on peut se repérer également avec ça, parce que là on est plutôt on est sur le même motif en fait que celui-ci, mais en fait on n'a pas le même lettrage parce que là on est sur des murs et là on est sur des fronts bâtis. Juste pour ajouter, je ne l'ai pas dit au début, mais ce travail-là, donc il a été fait sur volet patrimonial sur le bâti. Mais il y a également un volet végétal en fait tout autant développé qui a été fait également en parallèle. Donc les éléments par exemple ici qu'on voit en vert, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais ce sont des ensembles des arbres remarquables qui ont été identifiés. Donc juste pour un petit exemple d'un ensemble bâti singulier, donc c'est un ensemble de style art déco des années 20-30 donc sur Angers, qui est marqué en fait par une implantation du bâti à l'alignement, comme on peut le voir ici, mais en même temps en retrait de l'espace public, donc qui laisse en fait un espace antérieur ici, qui est en général très végétalisé et qui est clôturé par des clôtures plutôt basses et plutôt transparentes. Et c'est ça aujourd'hui qui a tendance à disparaître. On le voit ici pour les clôtures, on le voit ici pour l'espace antérieur qui commence, enfin, les gens commencent à grandir en mettant des volumes comme ça qui viennent se greffer devant. Et donc c'est ce qu'on essaye en fait de ralentir, enfin de stopper en fait avec cette annexe du patrimoine. Alors c'est vrai que l'implantation, par exemple le retrait et puis la hauteur des clôtures, on la gère dans le règlement, mais l'aspect sur la clôture, c'est-à-dire la transparence, d'avoir plutôt des grilles plutôt que du PVC comme ça qui épaissit énormément la clôture et qui fait qu'elle n'est plus transparente, ça on le gère en fait par l'annexe. Mais c'est pas si simple à nous, parce que le service ADS, moi je suis dans le service planification, et donc le service ADS, donc instruction des sols, est un autre service. Et très souvent ils viennent me voir pour me dire oui, mais bon quand même, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que ça c'est assez ajouré ou pas assez ajouré? Comment on fait pour savoir à quel moment on peut décider si c'est ajouré ou pas ajouré? Enfin bon, c'est pas évident, mais bon, ils viennent nous en parler, en tout cas c'est déjà bien. Voilà, et puis juste un petit plan là pour vous montrer aussi que voilà, au niveau des hauteurs, donc on n'est pas forcément tout à fait synchro avec le zonage. Ici on est sur un secteur UC par exemple, donc c'est le plan en fait de la petite cité qu'on vient de voir là, Art Déco années 20-30. Donc on a un filet d'implantation obligatoire ici, voilà, donc sur le plan de zonage, mais on voit qu'au niveau de la hauteur on n'est pas la hauteur, donc on est en vert clair là sur une hauteur de 8-12 mètres, alors que sur une partie du zonage UC, puisqu'on est en zonage UC, on est sur une hauteur un peu plus haute, 12-16 mètres pour ce secteur-là. Donc en fait, on a essayé de jouer aussi avec ça. Et puis quand je vous disais aussi que le végétal était identifié, c'est qu'ici aussi on a identifié par exemple le cœur d'îlot en végétal, tout en laissant quand même une petite marge pour que les bâtiments puissent évoluer quand même à l'arrière. Et pas, puisqu'on leur interdit en fait de venir agrandir en extension devant, au moins on interdit aussi en hauteur, donc au moins leur laisser un petit peu de champ en arrière, quoi. Juste des petites photos du patrimoine qu'on a identifié. Donc là, on est sur la catégorie ensemble bâti séquentiel. Donc voilà, on retrouve beaucoup. Là, on est plutôt sur des fronts urbains, sur des fronts bâtis. C'est-à-dire que c'est vraiment la façade qui est identifiée et on n'est pas sur les arrières, sur tout le bâtiment, quoi. Des ensembles bâtis singuliers. Et puis des éléments de petit patrimoine local. Alors j'ai dit tout à l'heure en introduction qu'on les prenait pas en compte, mais en fait on a pris en compte quand même certains, notamment les murets, parce qu'il y a une commune notamment Saint-James-sur-Loire où les murets ont des très très grands linéaires et donc sont vraiment très marquants en fait sur cette commune là la commune est très identifiée avec ces murets. On a également des OAP aménagement. Donc monsieur Masson, tout à l'heure parlait de l'échelle et effectivement on s'est rendu compte que l'échelle en fait d'identification ou de repérage était très importante, ce qui fait que nous on était à l'échelle donc de 33 communes, donc il y a des choses, on s'est dit c'est pas possible d'identifier des fois des petits bâtiments tout en pierre très intéressants, mais qui à l'échelle de l'agglomération, si on commençait à identifier tous ces éléments-là partout sur toute l'agglomération, on se retrouve avec une annexe du patrimoine de, je sais pas, 4000 ou 5000 bâtiments, quoi, éléments. Et donc, certains éléments n'ont pas été identifiés dans l'annexe, mais par contre, on les a identifiés dans certaines OAP. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a une OAP sur ce secteur-là. Donc là, on est vraiment à l'échelle de la parcelle, etc. Donc on a des éléments qui sont identifiés. Voilà, c'est les petits points, les petits traits roses. C'est une identification, mais on va dire zoomée au niveau de l'OAP. Donc c'est vrai qu'au niveau juridique, on n'est pas sur tout à fait le même rapport, parce qu'on est sur un principe de compatibilité au lieu de conformité, mais bon, ça permet quand même de pouvoir discuter avec les porteurs de projets, et voilà. Voilà, et puis donc, on a une OAP Val-de-Loire, donc puisque notre... l'idée, c'était de rendre lisible un petit peu ce territoire dans l'agglomération, et puis parce qu'il y a aussi un plan de gestion UNESCO qui est là et qu'on souhaitait prendre en compte. Mais en même temps, ce plan de gestion, il n'a pas une dimension réglementaire. Donc nous, on a essayé de le rentrer dans le PLU. On s'est fait aider, en fait... sur ce secteur-là par une étude paysagère du CAUE. La mission, on a également rédigé cette OAP Val-de-Loire avec la mission Val-de-Loire. Donc voilà, cette OAP Val-de-Loire, elle est sur la zone cœur en fait UNESCO, donc qui correspond à 7 communes qui sont concernées. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il y a 3 volets qui caractérisent la vue sur notre territoire, qui sont identifiés en fait dans l'état initial de l'environnement. On développe, puisque notre VUE elle est quand même aussi un peu différente, donc notre valeur universelle exceptionnelle, elle est un petit peu différente sur notre territoire que sur d'autres territoires classés UNESCO. Donc on l'a développé dans l'état initial de l'environnement. Et puis on a 3 grandes orientations qui sont révéler les grands équilibres paysagers, qualifier les espaces urbains et qualifier les entrées et les axes de vue du site. Donc dans chacune de ces orientations se décline une cartographie, un diagnostic et puis des orientations, et puis une rubrique qu'on a appelée pour aller plus loin, qui est la transcription des orientations avec des outils du PLU. Comme la trame verte et bleue, et plein d'autres éléments, ça pourrait être de l'EBC également, etc. Juste pour dire que je croyais qu'il y avait une autre. Non. Bon, juste pour finir, en fait, donc ce PLU, il a été approuvé en février 2017. Et aujourd'hui, on vient d'intégrer une commune nouvelle qui s'appelle Loire-Authion, là, qui est elle-même une fusion, enfin une commune nouvelle sur de 7 petites communes. Et donc, on repart sur une révision de notre PLU. Voilà. Et donc, sur un volet patrimonial, donc sur cette commune-là, Loire-Authion, puisque Loire-Authion a en partie sur le Val de Loire. Donc, il y a une grande partie qui est classée UNESCO. Et du coup, juste pour accrocher avec un petit peu tout ce qui a été dit, on vient de signer une convention tripartite avec le département, enfin le service inventaire du département et de la région, pour justement faire un inventaire patrimoine bâti donc sur ces trois communes-là, enfin sur les parties, donc pas sur les communes en entier, mais sur les parties UNESCO en fait de ce territoire-là, pour pouvoir nourrir justement la suite de notre OAP Val-de-Loire du PLU. Je ne dis pas qu'on reprendra tout, parce que voilà, mais au moins on aura cette base-là en fait pour travailler.